Bonjour à tous, bienvenue à Victoire Centre Chrétien. Donc, je m'appelle Philippe Boulanger et c'est moi qui ai l'honneur et le privilège de vous servir par la parole de Dieu ce matin. Je vous passe les salutations de nos pasteurs, donc John et Laura Madon sont en Suisse, avec quelques jeunes de notre assemblée. Ils sont allés à une grande rencontre de jeunesse avec 2200, si je ne m'abuse, jeunes qui sont au même endroit pendant tout un week-end. Donc on a quelques membres de l'assemblée qui sont là-bas, donc des jeunes avec nos pasteurs. Les salutations aussi de pasteur Peter et Sherilyn Madon. Donc vous savez que pasteur Sherilyn a perdu son papa récemment. Donc ils ont dû aller en urgence aux États-Unis. Et donc l'enterrement a eu lieu mercredi. Et donc les deux ont pu être là. Donc ils vont bien, ils vous passent leurs salutations. Et Peter, pasteur Peter sera de retour le 1er mai. Donc il ne va pas être là pour le pique-nique. Et pasteur Sherilyn sera de retour dans le courant du mois de mai. Mais il vous embrasse tous bien fort. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes toujours heureux d'être chrétien? Oui? Vous savez, on était pendant la louange et j'ai reçu quelque chose dans mon esprit. J'ai reçu quelque chose comme ça. Dis à ton problème combien Dieu est grand. Est-ce que tu veux faire ça? Dis à ton problème, quel que soit ton problème, combien Dieu est grand face à ton problème. On va se lever, on va déclarer à notre problème combien Dieu est grand face à ce problème. Alors c'est peut-être un problème familial, c'est peut-être un problème financier, mais dites à ce problème, vous savez que Jésus n'a pas parlé de la montagne, il a parlé à la montagne, donc parlons à ce problème de la grandeur de Dieu. Faites-le pour vous, entre vous et Dieu, et je le fais pour moi, entre moi et Dieu, n'est-ce pas? Merci Père. Père, nous voulons dire ce matin que tu es tellement plus grand que nos problèmes. Tu es tellement plus grand que nos circonstances. Père, nous décidons de parler à ces problèmes dans notre vie. Nous ne nous laissons pas submerger par ces choses, mais laissons-nous envahir par la présence de Dieu et par Dieu qui est si grand, tellement plus grand que ce que nous sommes en train de traverser. Merci Père pour ta grâce et pour ta paix dans nos vies. Et Père, je te prie pour ce message que nous allons vivre ensemble. Je te prie que ton Saint-Esprit vienne à nouveau illuminer les Écritures dans le nom de Jésus. Père, je prie que cette parole soit semée dans des cœurs et que le Saint-Esprit vienne déverser son eau pour que cette semence croisse. Croisse à 30, 60 et 100 pour 1. Père, je prie que ça ne soit pas simplement un message d'information, mais que ça soit un message de transformation qui change quelque chose dans nos vies. Père, nous ne sommes pas levés ce matin simplement pour écouter quelque chose et que notre vie continue, notre vie quotidienne continue, mais nous sommes venus écouter quelque chose pour que nous soyons changés, pour que nous soyons transformés et que notre vie soit différente la semaine prochaine. Amen. Merci Père, dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Vous pouvez prendre place. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais... Au nom de ma femme et moi, donc, je suis Philippe Boulanger, membre de l'équipe pastorale, et avec ma femme, nous étions partis au Canada au mois de mars. Nous avons fait un voyage missionnaire au Québec, et je n'ai pas eu l'occasion publiquement de remercier l'Assemblée, mais il y a beaucoup de personnes parmi vous qui nous ont soutenus financièrement pour ce voyage, et j'aimerais, au nom de ma femme et moi, vous remercier pour votre aide si précieuse, financière, parce que nous sommes... rentrer entièrement et même au-delà de nos frais grâce à la générosité de l'Église. Notre billet d'avion a été complètement payé et c'est vraiment grâce à vous. Donc merci à tous. Ça fait un petit moment qu'on est revenu, mais on a fait un petit peu des va-et-vient. Donc je voulais le faire publiquement devant vous et vous remercier de votre générosité. Nous avons eu plusieurs invités, mais nous avons toujours une direction très claire que notre pasteur nous a donnée pour cette année. Il nous a parlé de chercher, encourager et transmettre. Et pasteur Bernard m'a un petit peu mis dans les starting blocks parce qu'il a déjà commencé à nous parler du verbe transmettre. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer dans cette lignée. La première fois que j'ai pris la parole cette année, je vous ai parlé de chercher et on avait parlé de rechercher le bien dont on travaille. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de transmettre. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui par rapport à transmettre? Qu'est-ce que nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu en lien avec cette notion ou ce concept de transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre? Donc, transmettre, mais ma première question, c'est pourquoi transmettre quelque chose? Finalement, si j'ai reçu quelque chose, pourquoi la transmettre? Pourquoi transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre? Et je vais vous raconter une petite histoire pour vous montrer comment j'ai découvert le pouvoir de la transmission. Et j'étais dans le métro à New York City. Je fêtais 3 ans de mariage avec ma femme et nous avons eu l'occasion et la bénédiction de passer notre 3e anniversaire de mariage dans la ville de New York. Nous étions avec un couple qui nous emmenait d'endroit en endroit et nous faisait découvrir la ville. Et à un moment, j'étais dans le métro new-yorkais. Vous savez que c'est comme à Paris, on passe beaucoup de temps dans le métro à New York. Et j'étais en train de... Vous savez, il y a la trame du métro qui commence à faire son bruit. Et tout d'un coup, je vois un panneau publicitaire. Et sur ce panneau publicitaire, je vois quelque chose qui m'a fortement interpellé. Il était écrit « Knowledge is power, pass it on ». Knowledge is power, pass it on. Et nous parlons de transmettre. On pourrait traduire cette phrase, qui était en fait une phrase publicitaire, « La connaissance est une puissance ». C'est de là qu'on a eu cette phrase, la transmission de la connaissance est une puissance. La connaissance est une puissance, transmets-la. Ou on pourrait dire autrement, et ça a commencé à m'interpeller, à me travailler, et j'ai réalisé la chose suivante. La connaissance est une puissance lorsqu'elle est transmise. La connaissance n'est pas une puissance lorsqu'on la garde pour nous. La connaissance est une puissance lorsque tu la transmets à tes enfants, lorsque tu la transmets à tes élèves, lorsque tu la transmets à tes voisins. C'est là qu'elle devient pouvoir, c'est là qu'elle devient puissance lorsqu'elle est transmise à quelqu'un d'autre. Et du coup, je suis resté quelques instants à méditer sur cette phrase. Vous savez, certaines fois, Dieu peut nous interpeller avec n'importe qui et n'importe quoi. Certaines fois, c'est un enfant de 3 ans qui va vous interpeller. Et en fait, c'est Dieu qui est en train de vous interpeller. Et là, c'était un panneau publicitaire. Alors, pourquoi transmettre ? J'ai aussi réalisé petit à petit, à la suite de cette phrase, que pour pouvoir influencer davantage, il faut transmettre davantage. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi transmettre ? On transmet pour gagner en influence. On transmet pour gagner en influence. Mais avant de vous parler de transmission et d'influence, et on va voir comment ces deux notions sont corrélées, j'aimerais que l'on voit ensemble pourquoi on ne transmet pas. Pourquoi on néglige le fait de transmettre? J'aimerais qu'on voit ensemble, je vais identifier 4 choses, 4 obstacles qui nous empêchent de transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on va identifier ces obstacles, ça va nous permettre d'aller au-delà et de transmettre. Premier obstacle que je vois, les raisons pour lesquelles je ne transmets pas, le premier point c'est celui-là. Je n'ai rien à transmettre, donc je ne transmets pas. Certains sont encore piégés par une mentalité. Souvenez-vous que le royaume de Dieu commence par un changement de mentalité, mais certains sont encore piégés dans la mentalité qu'ils n'ont rien à transmettre à quelqu'un d'autre. Et vu que tu penses que tu n'as rien à transmettre, tu ne transmets pas. Et vu que tu ne transmets pas, tu ne peux pas gagner en influence. Mais moi, je suis simplement venu te montrer par la parole de Dieu que ceci, le fait de croire cela, est un mensonge. Et nous savons que la vérité nous rend libres, donc le mensonge nous rend esclaves. Tu as quelque chose à transmettre. Oui, mais qu'est-ce que j'ai à transmettre ? Je n'ai pas l'impression d'avoir le don de celui-là, je n'ai pas l'impression d'avoir le talent de cette personne. Tant qu'on se compare, on ne va pas réaliser ce que l'on a à transmettre. La comparaison est dangereuse. Il ne faut pas rester dans la comparaison. Et la personne qui pense qu'elle n'a rien à transmettre, donc elle ne transmet pas, elle ignore la grâce de Dieu qu'il y a sur sa vie. Elle ignore la grâce de Dieu qu'il y a sur sa vie parce qu'elle est trop en train de regarder les autres. Elle est en train de regarder le talent des autres. Elle est en train de regarder la capacité des autres. Elle est en train de regarder comment les gens font bien les choses. Mais moi, finalement, qu'est-ce que j'ai à transmettre ? Laisse-moi te dire que si tu as la foi en Jésus, tu as quelque chose à transmettre. Si tu es chrétien né de nouveau, tu as à transmettre la vie éternelle en Christ Jésus. Dis-moi pas que tu n'as rien à transmettre. Le diable est en train de te piéger si tu penses que tu n'as rien à transmettre. Et je vais te le prouver par la parole de Dieu. En Romains 12, verset 6, il est écrit que nous avons tous reçu des dons. Mais la parole continue en nous éclairant. Elle dit que nous avons reçu des dons différents. Alors peut-être quelqu'un a reçu un don que tu convoites, Mais moi, je te dis plutôt cherche ton don plutôt que de convoiter celui de ton voisin. Il dit qu'il a donné des dons à chacun. Donc, si tu as un don, tu as quelque chose à transmettre ou je me trompe? Un don, ce n'est pas quelque chose que tu reçois par mérite, tu l'as reçu par grâce. C'est ce que dit ce verset ici. Puisque nous avons reçu des dons différents, il n'est pas marqué que seulement quelques-uns ont reçu des dons. Il est dit, nous avons reçu des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et après, il fait une liste des différents dons qu'il y a et que celui qui a reçu un don, il doit l'exercer. Donc, si tu as reçu un don, ce don, tu as reçu pour transmettre quelque chose. Si tu as reçu un don pour la musique, tu peux chanter et jouer dans ton salon et dans ta salle de bain, mais en fait, ton don, il n'est pas pour toi, il est pour les autres. Si tu es un bon musicien, ton don, il est pour les autres. Si tu sais bien parler, ton don, il n'est pas pour toi, à moins que tu te parles dans la voiture, mais il est plutôt pour les autres. Donc, les dons que nous recevons, ils ont une destination, c'est la transmission. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Nous l'avons reçu par grâce. Donc j'espère que si vous êtes dans cette catégorie de personnes, vous voyez que vous avez reçu quelque chose à transmettre. Vous avez reçu quelque chose qui est un don de la grâce de Dieu que tu dois transmettre. Donc tu as quelque chose à transmettre. Tout le monde a quelque chose à transmettre. Deuxième point, ou le deuxième obstacle qui nous empêche de transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est celui-ci. J'ai quelque chose à transmettre, mais je suis dans l'insécurité, donc je ne transmets pas. Vous n'êtes pas dans la confiance, vous êtes dans l'insécurité. Et vous pensez que si vous transmettez quelque chose, vous allez être dévalué au prix de quelqu'un d'autre. Mais moi, j'aimerais vous donner une nouvelle pensée. Si tu transmets quelque chose à quelqu'un d'autre, tu n'es pas en train de te dévaluer ou de te dévaloriser. Tu es en train d'augmenter ta propre valeur. Parce que si tu déposes quelque chose en quelqu'un d'autre, cette personne ne va plus simplement t'admirer parce que tu avais quelque chose. Elle va davantage t'admirer parce que tu as déposé quelque chose en elle, parce que tu t'es investi en elle, parce que tu as déposé quelque chose de valeur en elle. Donc arrêtons d'être dans l'insécurité, de se dire « Oh, mais cette connaissance, c'est moi qui l'ai, et si je la donne à quelqu'un d'autre, je vais être en danger. » Ça, c'est la pensée qu'on trouve dehors. Mais ce n'est pas la pensée du royaume. Est-ce que Jésus a été en danger parce qu'il a transmis à ses disciples? Est-ce qu'il a perdu sa valeur d'identité de fils de Dieu? Est-ce qu'il s'est senti moins bien lorsqu'il a transmis? Mais dans le monde de l'entreprise, on voit ça tout le temps. Ah non, je ne vais pas lui donner ma technique, comment moi j'opère, parce que en fait, après, cette personne, elle va gagner, elle va être promue avant moi, donc je ne transmets pas. Pourquoi? Parce que je suis dans l'insécurité. Mais moi, je te dis que si tu commences à transmettre ce que tu as dans la vie de tes collègues, si tu commences à transmettre ce que tu as dans la vie de tes frères et sœurs, tu vas voir que c'est la clé pour une vraie promotion. Parce que tu n'es plus centré sur toi-même. Tu n'es plus centré sur toi, tu es centré à aider les autres. Et moi, j'ai appris quelque chose. Quand tu aides les gens à grandir, toi, tu continues à grandir. Parce que si je continue à écraser les autres. Qu'est-ce qui se passe? Si je commence à écraser les autres, je suis en train de m'écraser moi-même. Si tu fais que de dévaluer les autres, tu es en train de te dévaluer toi-même. Mais voyez, parce que pour écraser quelqu'un, je dois descendre. Mais si tu es en train d'élever les autres et de transmettre à quelqu'un d'autre, tu es en train d'élever les autres et par conséquent, tu es en train de t'élever aussi. Donc, sortons de notre insécurité. Sortons de cette mentalité où de se dire, ah, vous savez, et on le voit souvent, vous allez rigoler, mais ah, j'ai une recette que personne ne connaît et donc du coup, je ne vais pas la transmettre. Moi, je te dis quelque chose, transmets-la avant que tu partes, s'il te plaît. Transmets-la avant de partir, mais que quelqu'un d'autre puisse bénéficier de ta tarte normande ou de ton gâteau ou de ton clafoutis qui est si extraordinaire, mais sois sûr que nous, on va aussi en bénéficier quand tu n'es plus là. Allô? Ah non, mais cette recette, c'est la mienne. Et vu que je n'ai pas envie que d'autres la connaissent, je reste dans mon insécurité et je reste dans mon petit secret. Vous savez quel est mon rêve? Mon rêve, c'est quand je pars d'ici, que ma vie produise encore du fruit. Amen. Vous savez, Kenneth Hagin est parti depuis longtemps, mais sa vie continue à produire du fruit. Jésus a dit, si vous portez, oh, j'aime ce verset, beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais moi, je te dis que la seule ou une des meilleures façons de produire beaucoup de fruits, c'est en transmettant ce que tu sais à quelqu'un d'autre. Parce que lorsque tu pars, ça produit encore. Ouh, est-ce que vous êtes en train de saisir? Mon rêve, c'est que ma vie produise encore du fruit quand je ne suis plus là. Mais ça n'en va seulement se produire quand tu auras transmis ta recette de grand-maman. Je pense avoir été assez clair. Mais tu ne perds pas ta valeur quand tu transmets. Retenez ceci, tu ne perds pas ta valeur quand tu transmets quelque chose. Tu l'augmentes. Jésus n'a pas perdu sa valeur lorsqu'il a transmis à ses disciples. Au contraire, ses disciples devaient dire, Jésus t'a fait tellement dans ma vie. Jésus t'a tellement transmis pendant trois ans et demi dans ma vie. Je vais te suivre jusqu'au bout. Lorsque tu transmets, les gens vont t'admirer davantage. Même si ce n'est pas l'admiration qu'on cherche, on est d'accord. Mais lorsque tu transmets quelque chose, les gens vont dire, ta vie a vraiment compté dans la mienne. Donc, sortons de l'insécurité. Troisième raison pour laquelle nous ne transmettons pas, j'ai quelque chose à transmettre, mais je ne sais pas comment, donc je ne transmets pas. Finalement, je n'ai pas forcément un micro pour transmettre, je n'ai pas forcément une plateforme pour se transmettre, pourtant j'ai quelque chose à transmettre à quelqu'un d'autre, mais vu que je ne sais pas comment, je ne transmets pas. Mais Jésus n'avait pas de micro. C'est peut-être une révolution, mais il n'avait pas de micro. Certaines fois, il est vrai, il a utilisé une barre qui faisait office d'estrade. Mais Jésus était en train, à chaque moment avec ses disciples. Il n'attendait pas la fin de l'année scolaire pour transmettre quelque chose à ses enfants ou à ses disciples. À chaque moment, quand il vivait avec eux, il disait, « Hé, les gars, laissez-moi vous transmettre quelque chose maintenant. » Oui, mais il n'y a pas réunion spéciale là, Jésus. Pourquoi tu veux... Non. Laissez-moi vous transmettre quelque chose. Maintenant, il a vu quelque chose dans la vie de ses disciples et il s'est dit, maintenant, je vais avoir un moment enseignable pour leur transmettre quelque chose. Tu n'es pas obligé d'avoir une réunion d'église pour transmettre quelque chose. Tu n'es pas obligé d'attendre la fin de l'année scolaire pour transmettre quelque chose à tes enfants. S'il a fait une bonne note, tu peux lui transmettre quelque chose. S'il a fait une moins bonne note, tu le prends à part. Et tu lui transmets quelque chose. Tu lui transmets une valeur fondamentale. Tu lui transmets quelque chose qui va l'édifier et l'encourager. Et la dernière raison, donc certaines fois on ne transmet pas parce qu'on ne sait pas comment. Et le quatrième obstacle que je vois, donc au début on avait une personne qui pensait qu'elle n'avait rien à transmettre. En 2 et 3, nous avons des gens qui pensaient avoir quelque chose à transmettre, mais qu'ils ne le faisaient pas parce qu'ils étaient dans l'insécurité ou ils ne savaient pas comment. Et le quatrième point, j'ai beaucoup à transmettre. Ben, il y en a des comme ça aussi. Coupable. Mais vous savez, moi j'ai quelque chose à transmettre. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non. Mais je sais que si je me lève le matin, c'est pour une raison. Sinon, je vais vers mon Père Céleste. Et puis il me dit, rentre. Si ma vie n'a aucun impact, si ma vie ne fait pas de différence, à ce moment-là, je pars et je vais vers mon Père Céleste parce que c'est bien mieux là-haut qu'ici. Donc quand je me lève le matin, je m'attends à transmettre quelque chose, je m'attends à ce que ma vie fasse une différence, sinon je reste au lit. Allô? Bon, apparemment, je suis le seul à penser comme ça, mais ce n'est pas grave. J'ai beaucoup à transmettre, mais je n'ai pas le temps, donc je ne transmets pas. Nous sommes une société piégée par le temps. Nous courons après le temps. Vous allez dans un séminaire où on vous dit « time management », ça va être plein à craquer. Parce qu'aujourd'hui, le temps va tellement vite qu'on ne sait plus comment le gérer. On ne sait plus comment le modeler à notre propre vie. C'est le temps qui nous gère et ce n'est pas nous qui gérons le temps. Et j'ai remarqué quelque chose, que plus on avance dans la vie, plus on a quelque chose à transmettre. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a acquis de l'expérience. Mais plus on avance dans la vie, moins on a de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on a beaucoup à transmettre, mais qu'on n'a pas le temps.
si on a quelque chose à transmettre, mais on ne sait pas comment le faire. Moi, j'aimerais vous proposer une alternative aujourd'hui pour surmonter tous ces obstacles. Si la transmission est la clé pour augmenter son influence, alors comment transmettre? Je vais vous proposer une idée que je vais appuyer par la parole de Dieu, qui est la suivante. Prenez pas peur, c'était juste mon introduction. Transmet à peu pour influencer beaucoup. Je répète, je n'ai pas dit transmet peu. Non. J'ai dit transmet à peu. Ça veut dire, sous-entendu, transmet quelque chose de valable à peu de personnes. Et tu verras que si tu transmets très bien à peu de personnes, ton influence sera très grande. Vous m'avez suivi? Je n'ai pas dit transmet peu, j'ai dit transmet à peu. Et nous allons voir dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas besoin de transmettre à beaucoup de personnes. En d'autres termes, la transmission n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Parce que si la transmission était une question de quantité, Jésus se serait trompé, parce qu'il n'en a choisi que 12. Mais Jésus savait que ce n'était pas la quantité de personnes à qui il allait transmettre, mais c'était la qualité et à qui il allait transmettre qui allait déterminer l'impact qu'il allait avoir. Résultat, on est tous impactés par le message de Jésus encore aujourd'hui. Est-ce que Jésus s'est trompé ou il a réussi? Quelque chose me dit que Jésus avait une méthode que nous devons répliquer ou que nous devons dupliquer, qui est celle de transmettre très, très, très bien à un petit nombre de personnes pour avoir une très grande influence. Et j'ai noté cette phrase ici, « Mieux vaut bien transmettre à peu de personnes que mal transmettre à beaucoup de personnes. » Est-ce que je suis le seul ou c'est ma logique suisse qui me fait défaut là? Est-ce que c'est logique là? Mieux vaut bien transmettre à peu, faire un travail de qualité avec moins de personnes, que de faire un travail ou de mal transmettre à beaucoup de personnes. C'est pour ça que Jésus n'était pas impressionné par la foule. Certaines fois, il partait même de la foule. Et il se retrouvait juste avec ses disciples et il leur disait, « Laissez-moi vous enseigner quelque chose de valable. » Et il disait, « Eux, je leur enseigne en parabole, mais à vous, j'enseigne autrement. J'enseigne plus en profondeur, j'enseigne plus en qualité. » Mais ils n'étaient que 12. Et dans ces 12, certaines fois, il n'y en avait que 3 avec qui il partait prier, Pierre, Jacques et Jean. Donc Jésus n'était pas impressionné par les foules. Il a décidé de transmettre très, très, très bien à peu de personnes pour avoir un maximum d'impact. Et là, j'aimerais qu'on dise ceci ensemble. Bonne transmission, grande influence. On va le dire. Bonne transmission, grande influence. En d'autres termes, si la transmission est bonne, l'influence est grande. Est-ce que je vous ai convaincu que vous avez tous quelque chose à transmettre? Vous savez, il y a un homme qui a transmis le message de l'Évangile à Christopher Alam, quelque part au Moyen-Orient. Cette personne a seulement transmis le message de l'Évangile à Christopher Alam dans ce moment précis. Christopher Alam est déjà venu dans cette église. C'est un évangéliste qui va en Afrique, qui va en Asie du Sud-Est, etc. Et aujourd'hui, Christopher est en train d'impacter des millions de personnes avec le message de l'Évangile. Mais il y a une personne qui lui a transmis quelque chose. Et la récompense est aussi pour cette personne à qui a transmis quelque chose. Et là, j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu. Et j'aimerais vous montrer qu'il y a un homme de l'Ancien Testament. Il n'a pas influencé beaucoup. Il n'a pas transmis à beaucoup de personnes, mais il a eu une très, très grande influence. Souvenez-vous, si tu veux maximiser ton influence, il faut maximiser ta transmission. Mais nous venons de voir que l'essentiel n'est pas de transmettre à beaucoup de personnes, c'est qu'il faut transmettre à peu de personnes, mais très bien le faire. Et il y a un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Mardoché. Mardoché, pour la petite histoire, était exilé en Perse, donc il était juif, il était exilé dans le royaume de Perse, Assuérus était le roi. Et le peuple juif était, si vous voulez, exilé dans cette terre. Et c'est à ce moment-là que nous voyons en Esther, chapitre 2, verset 5, nous allons voir que Mardoché a transmis pendant longtemps à une seule personne et que son influence a été maximale. Mardoché est celui qui a transmis à Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther ? Esther et Mardoché et Esther ont déjoué un complot entier contre le peuple juif. Comment ont-ils déjoué ce complot ? Ce complot a été déjoué lorsque Mardoché a transmis quelque chose à Esther. Est-ce qu'il a transmis à beaucoup ? Il a transmis seulement à une femme et cette femme a changé toute sa nation. Donc, bonne transmission, grande influence. Il a transmis seulement à Esther et Esther a une telle influence qu'elle a sauvé toute sa nation. Et nous voyons ici en Esther chapitre 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Décidément, les noms dans l'Ancien Testament ne sont pas faciles à prononcer. Verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Chers parents, aujourd'hui, vous allez être encouragés. Nous voyons ici Mardoché qui a pris la responsabilité de Esther. Mardoché était le tuteur d'Esther. Mardoché est la personne qui a décidé de transmettre, souvenez-vous, qu'ils sont déportés en Perse et qu'ils sont juifs. Mardoché est la personne qui a décidé de transmettre dans une seule personne les valeurs de son pays, la langue de son pays, les coutumes de son pays, et il a transmis tout cela à Esther. La Bible nous dit, à la page suivante de ma Bible, au verset 20 de chapitre 2, que Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous tutelle. Donc Esther était une juive cachée, mais il y a quelqu'un qui lui transmettait les valeurs de son pays. Et lorsque un gars qui s'appelle Haman décide de comploter contre le peuple juif pour les faire tuer, parce que Mardoché ne s'était pas soumis à lui, Dieu va utiliser Esther, que Mardoché a pris beaucoup de temps à transmettre quelque chose, pour la placer et qu'elle devienne reine de ce royaume et femme d'Assuérus. Et l'histoire nous dit que Dieu a fait la faveur, a octroyé la faveur à Esther et que sa demande, lorsqu'elle a demandé au roi de ne pas tuer son peuple, le roi a dit que ta demande soit effectuée. Et c'est Haman qui a été tué, c'est Mardoché qui a été sauvé et tout le peuple juif a été sauvé. Comment cette histoire a-t-elle commencé ? Elle a commencé parce qu'un homme a compris que ce n'est pas le nombre de personnes à qui tu transmets, c'est la qualité de ce que je vais transmettre à Esther. Et Esther avait les valeurs de son pays, elle avait à cœur son pays, elle avait à cœur sa coutume, elle a été placée, Mardoché lui dit, tu as été placée là pour une raison, c'était pour sauver tout son pays. La Bible nous dit, parce qu'on se souvient d'Esther, vous vous souvenez, c'est souvent Esther qu'on dit, ah Esther, quelle femme de Dieu, tout à fait d'accord. Mais n'oublions pas le transmetteur. Dans Esther 8, verset 15, la Bible nous dit que Mardoché a été couvert d'éloges. Verset 15, Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Et si vous lisez le dernier chapitre d'Esther, c'est une éloge entière à Mardoché, comme quoi il a été honoré de tout son peuple, le peuple de Dieu. Donc il n'y a pas que Esther qui a reçu la récompense de sauver tout son peuple. La Bible nous dit que le transmetteur reçoit la même récompense, reçoit la même éloge que celle à qui il a transmis. Est-ce que vous me suivez ? Il a transmis à une seule personne. Et on voit aussi cette idée de, c'est quoi le message ? Transmet à peu, sous-entendu à peu de personnes, pour influencer beaucoup. Mardoché a très bien transmis à Esther. Quelle a été l'influence d'Esther ? A été de sauver toute sa nation. Est-ce que l'influence est grande ou elle petite là ? Elle est grande. Et dans le livre des Actes, nous voyons en acte 9, nous voyons un autre homme. Dieu demande à cet homme de transmettre quelque chose à un autre homme. Le transmetteur, on ne va plus vraiment en entendre parler. Par contre, celui à qui il a transmis, on va beaucoup en entendre parler. On va tellement en entendre parler qu'aujourd'hui, on lit encore ses lettres et on lit encore ses épîtres qui sont en train de, qui non seulement ont changé notre vie, mais qui sont encore en train de changer notre vie. Je vous parle d'un jeune homme, ou je ne sais pas s'il était jeune, mais en tout cas d'un homme, qui s'appelle Ananias. Ananias reçoit la directive du Seigneur d'aller imposer les mains à Paul, non seulement pour qu'il recouvre la vue, mais qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alors il faut bien comprendre le contexte. Acte 22 nous dit que Ananias avait un très bon témoignage dans sa communauté juive. Très bon témoignage, un homme très digne. Mais Paul n'avait pas du tout un bon témoignage à l'époque. Il n'était pas encore Paul, il était Saul de Tarse. Et la Bible nous dit qu'il ravageait et il persécutait l'Église de Christ. Donc Dieu demande à un homme qui avait un très bon témoignage d'aller imposer les mains à un homme qui avait un très mauvais témoignage. Aïe, aïe, aïe pour la réputation d'Ananias. Donc du coup, Ananias, en acte 9, verset 10, il n'est pas très pour au début. Or, en acte 9, 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » On parle de Paul. Verset 12, « Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Verset 14. « Et il a ici des pouvoirs de la part des, saints, des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. »
Donc Paul demandait des lettres aux responsables religieux de l'époque pour aller dans les différentes provinces pour pouvoir ravager l'Église.
Verset 15. « Mais le Seigneur lui dit, donc à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. »
Dieu demande à Ananias de transmettre quelque chose à une seule personne. Ananias obéit. Et la Bible nous dit que la personne à qui il a transmis va avoir une influence, au verset 15, dans les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mais Ananias a seulement transmis quelque chose à une personne. Mais l'influence que Paul a eue dans les nations, devant les fils d'Israël et devant les rois, c'est aussi la récompense d'Ananias. Ananias, on ne le voit plus dans les Écritures. Mais il y a ce récit qu'il a compris, Ananias, que lorsque je vais transmettre quelque chose de valable, peu importe s'il y a beaucoup de... Non, transmets à peu quelque chose de valable et tu vas avoir une très grande influence. Le ministère de Paul... Son influence qu'il a eue, c'est le résultat de l'obéissance d'Ananias. Je te dis aujourd'hui, mais comment est-ce que je peux transmettre? Tu n'as pas besoin de transmettre à beaucoup de personnes. Mais ce que tu le transmets bien. Et lorsque tu vas bien transmettre, ces personnes vont faire des choses plus grandes que toi. Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Pourquoi? Parce qu'il a tellement bien transmis à ses disciples. Il savait qu'ils allaient faire beaucoup plus de choses que lui. Vous aimez les histoires? Moi, j'aime les histoires. Et cette histoire-là, je l'aime bien. On va retrouver notre maître, Jésus. Et cette histoire, elle est saisissante. Parce que cette histoire, dans Marc 5, nous dit que Jésus est sur la côte. Il est avec ses disciples, en train de faire du ministère. Le récit en Marc 5 nous dit que Jésus monte dans une barque avec ses disciples et que tout d'un coup, il y a une grande tempête sur cette mer. Jésus calme la tempête et la Bible nous dit qu'il va sur l'autre rive de la mer. Écoutez bien, la Bible nous dit que de l'autre côté de la rive, Jésus ne va seulement transmettre quelque chose à une seule personne. Cette personne dont je parle, donc, vous avez compris qu'il va de l'autre, il fait de la... Vous savez, il n'y avait pas de moteur. Il va de l'autre côté
pour impacter ou transmettre quelque chose à une personne. Et après, la Bible nous dit qu'une fois que ça a été fait, il remonte dans la barque et il repart de l'autre côté de la rive. En d'autres termes, Jésus a traversé toute une mer avec ses disciples pour transmettre quelque chose à une seule personne. Mais qu'a-t-il transmis à cette personne et quelle a été l'influence de ce qu'il a fait? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous savez, j'étais dans une église remplie de Sud-Américains la semaine dernière. Ça bougeait dans tous les sens. Donc, je reviens un petit peu avec ce feu sud-américain en moi. Et nous sommes dans Marc 5. Et Jésus va de l'autre côté de la rive pour transmettre la délivrance à un homme qui était rempli de démons. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette histoire? Jésus va exprès de l'autre côté de la rive pour transmettre la délivrance à un homme qui était rempli de démons. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Légion. Jésus délivre cet homme et on va reprendre l'histoire en Marc 5, verset 18. Jésus a transmis à une seule personne de l'autre côté de la rive. Il est prêt à embarquer et de retourner de l'autre côté. Verset 18 de Marc 5. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui voulaient suivre Jésus. Quelle a été la réaction de Jésus lorsque cet homme de Gadara a voulu le suivre? La Bible nous dit, je vais citer la Bible, Jésus ne lui permit pas. Ah mais Jésus, je croyais que tu étais un bon gars. La Bible nous dit qu'il ne lui permit pas, mais il lui dit, regardez ceci, parce que Jésus savait que ce qu'il lui avait transmis, il n'y avait pas encore eu l'influence de sa transmission. Il lui a dit, je ne te permets pas de venir avec moi, parce que l'influence de ce que j'étais transmis n'a pas encore opéré. Donc tu restes là. Donc Jésus savait ce qu'il faisait. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20, et là on va voir l'influence de la transmission de Jésus. Transmets à peu, à une seule personne, et tu auras une grande influence. Transmets à peu pour influencer beaucoup de personnes. Transmets à peu de personnes pour influencer beaucoup de personnes. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, donc là on parle de l'homme de Gadara, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Tiens. Jésus ne lui permit pas de venir avec lui. Il lui dit, va, publie tout ce que j'ai fait pour toi. Publie ta délivrance là où tu es. Ne viens pas avec moi dans ma barque. Reste dans ta contrée et publie ce que j'ai fait pour toi. La Bible nous dit, et si mes références grecques sont bonnes, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Déca en grec, ça veut dire 10. Lorsque vous faites un décathlon, vous avez 10 épreuves à faire. Donc, lorsqu'il publia dans la Décapole, ça veut dire qu'il devait publier dans un district de 10 villes. La transmission de Jésus à une seule personne a eu une influence sur 10 villes. Est-ce que vous êtes en train de saisir ce que je dis? Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de transmettre? Vous savez, certaines fois, on regarde les choses dans la chair et on se dit, oh là là, mais pourquoi il n'y a pas des milliers de personnes? Pourquoi il n'y a pas des milliers? Mais ce n'est pas important finalement. Jésus n'était pas impressionné par les milliers. Il savait que s'il transmettait bien à quelques-uns, il allait bouleverser le monde. Là, il transmet bien à une seule personne et lui dit, publie, témoigne ce que j'ai fait pour toi. En d'autres termes, c'était le début de l'évangélisation massive. Mais ce n'est pas Jésus qui a évangélisé, c'est l'homme de Gadara. Vous savez, il y a une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est ma mère. Ma mère a eu 3 fils. Elle nous a transmis les valeurs de la foi chrétienne. On a chacun dû faire notre parcours, chacun rencontrer Jésus individuellement, parce que c'est une relation personnelle, n'est-ce pas? Mais elle a transmis quelque chose. Son désir, c'était ceci. Mon ministère, c'est mes enfants. Mon objectif pour mes enfants, c'est qu'ils aient une formation professionnelle et qu'ils connaissent le Seigneur. Si ces 2 choses sont remplies, alors je pourrai m'estimer heureuse. Et moi, vous savez quoi? Ma mère, elle est en Suisse. Elle est toujours en Suisse, là où elle, plus ou moins là où elle est née. Et je sais qu'un jour, elle va aller au ciel. Et elle va rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, Sonia, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Tu as influencer des nations. Non, non, mais attends. Seigneur, tu comprends pas. Moi, je suis resté dans mon pays natal. Je suis resté en Suisse. Oui, mais tu as transmis quelque chose à 3 personnes. Tu as transmis quelque chose à tes fils. Et tes fils ont influencé des nations. Rentre dans la joie de ton maître. J'étais au Canada, j'étais en Allemagne, j'étais en Suisse. Mon petit frère a rencontré le Seigneur le 3 janvier de cette année. Résultat, au mois de juin, il part apporter l'évangile en Chine. C'est pas mal comme radicalité. Mon frère aîné va partir en Corée du Sud avec sa femme. Là, ce n'est pas directement lié avec l'évangile, mais certaines fois, notre vie est simplement le témoignage de l'évangile. Sonia, tu as influencé des nations. Rentre dans la joie de ton maître. Ta récompense est la même que celle de tes fils, parce que c'est toi qui as transmis. Si vous êtes parents, est-ce que vous pouvez m'accorder une faveur? Enlevez la limite que vous avez mise sur vos enfants. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut faire à travers vos enfants. Vous savez, quand je suis dans la pièce à côté, j'ai quelques adolescents autour de moi. Mais moi, j'ai compris que ce n'est pas le nombre de personnes qui m'entourent qui est important. C'est ce que je leur transmets. Et moi, je les considère, ces jeunes de 10 à 15 ans, comme si, un, il allait être le président de la République française, comme si, l'un, allait être un avocat international. Moi, je les traite comme ça. Tu ne sais pas à qui tu es en train de servir à manger. Regarde, comme a dit Bernard, les gens comme membres du corps de Christ, comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. Moi, je regarde ces adolescents comme de futures personnes qui vont bouleverser ce monde pour l'évangile. Mais je n'attends pas 60 ans pour transmettre. J'ai déjà commencé à transmettre. Un petit truc, transmets quelque chose à ceux qui ont la moitié de ton âge. Moi, j'ai 31 ans. J'enseigne quelque chose à ceux qui ont la moitié de mon âge. J'ai quelque chose à transmettre. J'ai 2 fois plus de vie qu'eux. J'ai quand même quelque chose à transmettre. Si tu as 60 ans, transmets quelque chose à quelqu'un qui a 30 ans. Tu as un parcours de vie. Tu as une expérience. Tu as un passé. Tu as des douleurs que tu as surmontées. Un témoignage. Tu as des choses à transmettre. Est-ce qu'on est tous là pour l'instant? Transmets à peu pour influencer beaucoup. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas le nombre qui compte? Alors on pourrait se dire, oui, mais en Suisse, les pasteurs, ils sont partis, il y a 2200 jeunes, là, il se passe vraiment quelque chose. Mais alors, quand Jésus transmettait, il ne se passait rien, parce qu'il n'y en avait que 12. Jésus a transmis à 12. Les 12 ont transmis à 70. Les 70 ont transmis à 120 le jour où ils étaient dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Pierre, le premier croyant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, prêche, il y a 3000 personnes. Mais Jésus n'a transmis qu'à 12. Mais il savait que s'il transmet bien à peu, il allait avoir une très grande influence. Mes amis, si vous êtes parents, je ne suis pas encore parent, vous avez des disciples à plein temps dans votre maison, vos enfants. Enlevez la limite que vous avez mise sur vos enfants. Arrêtez de lui dire qu'il n'est bon à rien ou qu'il ne va jamais réussir à faire quelque chose. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire dans cet enfant. Ma mère avait reçu cette parole lorsque nous n'étions pas encore au Seigneur, ses 3 enfants. Elle avait reçu Ésaïe 54, verset 13. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. » On est tous au Seigneur, la prospérité est en cours. Alléluia. Dernière histoire. Nous avons vu que Mardoché a transmis à Esther, bien transmis, résultat, une nation a été sauvée. Nous avons vu que Ananias a transmis à une seule personne, cette personne c'était Paul, et que cette Paul a eu une influence dans les nations, dans les fils d'Israël et vers les rois. Nous avons lu que Jésus va de l'autre, prend le temps, et vous savez qu'il n'y avait pas EasyJet à l'époque, il a pris le temps d'aller de l'autre côté de la rive, la Bible nous dit pour une seule personne, pour lui transmettre quelque chose, il s'en va lorsqu'il a transmis, il lui dit reste là, mais en fait cette personne a évangélisé dans 10 villes. Dernière histoire, pour vous montrer à quel point c'est important. Hier j'ai prêché ce message, et il y a une femme qui est venue me voir. Elle me dit, Philippe, lorsque tu prêchais, j'ai une vision dans mon esprit. Ah bon? Elle m'a dit, lorsque tu prêchais, c'est comme si tu étais dans un grand stade. C'est comme si le ciel était en train de t'encourager et en train de dire « Oui, c'est ça. » Saisissez ça. Si vous saisissez que ce n'est pas le nombre à qui tu transmets qui est important, mais à qui tu transmets et comment tu transmets, à ce moment-là, votre influence va décupler. Et la dernière histoire que l'on va prendre, c'est l'histoire de Jésus et de la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire ? Je vais la paraphraser en quelques mots. Jésus, en Jean 4, il est en Judée. La Bible nous dit qu'il veut retourner en Galilée. Mais si vous prenez une carte, pour aller de la Judée à la Galilée, il faut passer par une région qui s'appelle la Samarie. Et la Bible nous dit que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus s'arrête dans cette région et il va avoir une interaction avec une seule femme. Waouh ! Mais il semblerait que Jésus n'est pas très intéressé par les foules. Il est plutôt intéressé à ceux qui ont faim et soif du royaume de Dieu, et ceux-là seront rassasiés, parce qu'il sait que ceux qui ont faim et soif du royaume de Dieu, c'est eux qui vont avoir une grande influence. Il passe par la Samarie, il va avoir une seule interaction avec cette femme samaritaine. Souvenez-vous, Jésus lui dit « Où est ton mari ?» Bon, d'abord, il était midi. Et quand tu marches dans cette région du monde et qu'il est midi, non seulement tu es fatigué parce que tu as marché, mais tu as soif, donc Dieu lui demande à boire. Et ensuite, il y a une interaction et Jésus lui demande « Où est ton mari ?» Et après, elle dit « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « Tu as raison, tu n'as eu 5, etc. » Vous pouvez relire l'histoire en Jean 4. Mais on va reprendre l'histoire au verset 39. À vrai dire, un petit peu avant. Et cette femme est interpellée parce que Jésus lui a, on dit souvent, il a lu son courrier. C'est-à-dire qu'il a réussi à lire tout ce qui se passait dans sa vie. Donc du coup, mais quand le Fils de Dieu va arriver, il va pouvoir faire ça. Et Jésus lui dit, mais c'est moi le Fils de Dieu, est-ce que tu crois en moi? Et du coup, elle va commencer à publier tout ce que Jésus a réussi à dire à propos de sa vie. Mais je vous ai dit que le transmetteur reçoit la même récompense que le récepteur. Je vais vous le prouver par les paroles de Jésus. En Jean 4, verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Esther a moissonné, Paul a moissonné, l'homme de Gadara a moissonné. Mais regardez, afin que celui qui sème, donc c'est celui qui transmet, et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui transmet partage la même récompense que celui qui a semé. Est-ce que celui qui a moissonné? Celui qui transmet, je répète, ou qui a semé, reçoit la même récompense que celui qui a moissonné, ou celui à qui quelque chose a été transmis. C'est pour ça que lorsque tu transmets à quelqu'un d'autre, tu n'es pas en train de perdre de la valeur, tu es en train d'augmenter ta valeur parce que tu es en train d'augmenter en influence. Allô ? Et ce que les autres font parce que tu leur as transmis quelque chose, c'est ta récompense à toi aussi. Est-ce que je suis clair ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que vous allez répondre comme Ananias, il t'a dit, mais partage juste à cette personne cette parole. C'est peut-être dans le bus, mais tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec cette personne. Tu ne sais pas ce que ta transmission ou ton obéissance comme Ananias peut faire. Dis juste à cette personne que Dieu l'aime. Samuel Caro, qui est venu ici parler aux jeunes adultes, il était au Maroc. Dieu lui dit, va dire à cette chanteuse que Dieu l'aime. Au début, il était un peu réticent, il va dire à cette chanteuse. Et cette chanteuse qui était au Maroc était une femme africaine qui avait grandi dans une maison chrétienne, dans un foyer chrétien, mais qui s'était détournée de Dieu et elle pensait que Dieu ne l'aimait plus. Résultat, Samuel lui dit juste, écoute, j'ai juste à cœur de te dire que Dieu t'aime et qu'il ne t'a pas oublié. Et cette femme commence à pleurer, commence à réaliser que Dieu ne l'a pas abandonnée et que Dieu l'aime toujours, même si elle s'est détournée de lui. Mais c'est parti d'une parole, c'est parti d'une transmission, pas à des milliers, pas à des centaines, pas à des cinquantaines, à une personne. Et Jésus transmet à nouveau quelque chose à une personne, à la femme samaritaine. Et regardez le résultat au verset 39. Plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de quoi ? à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus a transmis ce que cette femme était en train de vivre. Et la Bible nous dit que toute une ville commençait à croire en Jésus ou crure en Jésus à cause de quoi ? À cause de ses miracles, à cause de ses prodiges. Non. À cause de cette déclaration formelle de Jésus, non, de la femme. Donc vous savez, Jésus en fait ne s'est pas arrêté en Samarie pour une seule personne. Il s'est dit, je m'arrête en Samarie, je vais très bien transmettre quelque chose à une personne, et après cette personne va le transmettre plus loin. Et comme ça, j'aurai augmenté l'influence que je voulais apporter à toute cette région, mais en fait, Jésus était comme limité en espace et en temps. Donc il choisissait de transmettre précisément à peu, dans quel but ? Pour influencer beaucoup. Et regarde ici, aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Donc il est resté 2 jours de plus, Jésus, et regardez en verset 41, en d'autres termes, cette femme lui a préparé son auditoire. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, à cause de la parole de Jésus maintenant. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, ou d'autres versions disent, ce n'est non seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Comment Jésus a-t-il évangélisé toute cette ville en Samarie ? Il a transmis à une personne. Comment Mardoché a-t-il sauvé sa nation ? Il a transmis à une personne. Comment Ananias a-t-il influencé des rois et des multitudes de nations ? Il a transmis à une personne. Comment Jésus a-t-il eu une influence sur une décapole, donc un district du Diville ? Il a transmis la délivrance à une personne. Transmet à peu pour influencer beaucoup. Ma question, c'est qui veut avoir de l'influence ici ? Le meilleur moyen d'avoir de l'influence, c'est de transmettre. À beaucoup ? Non ! Transmets un peu et tu auras beaucoup d'influence. Merci Père parce que sa parole nous éclaire une nouvelle fois aujourd'hui. Elle nous montre que transmettre n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Vous savez, jamais de pratique. J'espère que la parole vous a éclairé sur la grande image. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? On va finir par là. 3 petits points pratiques pour bien transmettre. 3 points pratiques à retenir pour bien transmettre. Vous êtes prêts ? Premier point, transmet en profondeur plutôt qu'en largeur. Mais ça veut dire quoi ? Souvenez-vous, lorsque l'homme de Gadara voulait venir vers Jésus, en d'autres termes, il voulait être un petit peu le 13e disciple. Jésus lui a dit non. J'ai sélectionné, il n'a pas aligné les disciples. Il en avait 12, mais il n'a pas allé à 15, il n'est pas allé à 20, il n'est pas allé à 25, il n'est pas allé en largeur dans son influence, il est allé en profondeur avec ceux qu'il avait choisis. Donc n'essaye pas d'aller en largeur, d'influencer beaucoup de personnes, va en profondeur avec ceux avec qui tu es déjà en train de transmettre. Ma mère est allée en profondeur avec nous. On était tout le temps avec elle. Comprenez cette terminologie ici que j'ai utilisée ? Transmet en profondeur quelque chose. Plutôt que, mais tant que je n'ai pas 1000 personnes, je ne transmets rien. Ben super, attends encore 50 ans. Jésus n'a pas attendu d'avoir une grande foule pour transmettre. Oui, mais Dieu m'a montré que lorsque je vais prêcher, il y aura un stade entier qui va m'écouter. Oui, mais si tu ne commences pas à un endroit, si tu ne commences pas à transmettre quelque part à quelqu'un, ça ne va pas se produire. Parce que Dieu marche par rapport à notre fidélité. La fidélité est la clé de sa promotion dans le royaume. Donc, transmet en profondeur plutôt qu'en largeur. 2e point, transmet sur une longue durée plutôt que sur une courte durée. Prends le temps de transmettre quelque chose, plutôt que de faire tout ou vite. Vous savez, certaines fois, dans les grandes rencontres chrétiennes, on est obligé de faire tout ou vite. Mais moi, en fait, j'ai réalisé que je n'aimais pas trop quand il y avait trop de monde. Parce que tu pouvais moins transmettre quelque chose qui allait impacter les vies. Parce qu'il y a tellement de monde, et puis, mais j'aurais voulu recevoir la prière, et puis je n'ai pas pu, etc. Vous savez, certaines fois, Une fois, je me suis retrouvé avec les ados, ils étaient deux. Et on est parti à la montagne et on allait faire des raquettes et tout. Mais est-ce que je suis obligé d'être dans la salle d'à côté pour leur transmettre quelque chose? Mais pendant que tu fais tes raquettes, tu peux leur transmettre quelque chose. Hé, comment ça va à l'école? Hein? Et avec la famille, ça va? Les parents, tout se passe bien? Ouais, c'est un petit peu dur. Ah ok, pourquoi c'est dur? Et on fait nos raquettes. C'est comme ça que Jésus, il transmettait. Il n'attendait pas d'avoir une assemblée. Il transmettait dans les situations de la vie quotidienne. Donc, transmet sur la longueur, pas sur la courte durée. Prends le temps de transmettre quelque chose. Et on le voit, Mardochée a pris toute sa vie pour transmettre à Esther. Mais plus tu transmets longtemps, plus grande sera ton influence. Alléluia. Élie a transmis longtemps dans la vie d'Élisée. Mais Élie, pourquoi il n'en a pas choisi beaucoup plus? Élie a choisi un seul successeur et la Bible nous dit que Élisée a eu deux fois plus de miracles dans son ministère que Élie. Mais Élie avait compris que ce n'est pas au nombre de personnes à qui tu transmets, c'est la qualité avec laquelle tu transmets. Paul a transmis à long terme avec Timothée. Mais Timothée a une grande influence. Timothée était non seulement évangéliste avec Paul au début, mais il a été pasteur de l'église la plus influente du Moyen-Orient de l'époque. Il était pasteur d'Éphèse. C'était pas rien. Très, très grande assemblée, très influente. Donc nous voyons que lorsqu'on... Cette idée de transmettre, c'est non seulement aller profondément, mais dans la durée. Et le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est transmet en donnant du temps plutôt que de l'argent. Je ne suis pas parent, mais j'ai été enfant. Et s'il y a une chose que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, l'enfant, il dit, « Papa, maman, j'ai plus trop besoin de mon petit train. Je laisse les jouets de côté. Est-ce que je peux avoir un peu plus de temps avec toi ?»« Mais papa, tu es tout le temps occupé. Tu es occupé avec les affaires, tu es occupé avec ton métier. » Et en fait, souvent, les enfants sont en train de demander beaucoup d'attention. Ils ne sont pas en train de demander une locomotive supplémentaire. Ils sont juste en train de demander, « Papa, maman, est-ce qu'on peut juste avoir un peu plus de temps ensemble ?» Parce qu'on a été beaucoup séparés ces derniers temps. Papa, il était loin, maman, elle a dû faire ci. Lorsqu'on veut transmettre avec efficacité, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question du temps. Le temps que tu peux donner à quelqu'un d'autre, c'est la chose la plus précieuse que tu peux donner à quelqu'un. Jésus a donné son temps à ses 12 disciples. Je ne sais pas s'il leur a donné beaucoup d'argent. La Bible nous dit que Judas, c'était son trésorier, donc il avait quand même des revenus pour vivre. Mais Jésus a décidé de donner de son temps, pas forcément de son argent. Et souvenez-vous, lorsque Simon le magicien a essayé d'acheter la transmission du baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains aux apôtres, Pierre l'a repris sévèrement, lui a dit, « Avec ton argent, va-t'en, on n'achète pas les dons de Dieu. » Transmet en donnant du temps plutôt que de l'argent. Oui, mais alors Philippe, tu sais, moi j'ai un problème et je finis là. Moi j'ai un problème parce que je suis chrétien. Et vu que je suis chrétien, j'aimerais traiter toutes les personnes avec la même équité. Donner le même temps à chaque personne. Parce que si je ne fais pas ça, je ne suis pas équitable. Alors comment je fais? Moi je te dis simplement, tu ne pourras jamais être équitable avec tout le monde. Tu ne pourras jamais donner le même temps à tout le monde. Tu ne pourras jamais soutenir quelqu'un financièrement avec les mêmes finances. Moi, je te dis, ne sois pas équitable, tu vas perdre ton temps. Sois engagé avec ceux avec qui tu as décidé de transmettre. Ne sois pas équitable, sois engagé avec ceux avec qui tu as décidé de transmettre quelque chose. Parce que tu sais que lorsque tu transmets seulement à quelques-uns, le résultat final, c'est que tu auras transmis à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai essayé de transmettre? Est-ce que vous avez saisi? Est-ce qu'on peut se lever? Et on va prier ensemble. On va prier pour ces personnes à qui Dieu veut qu'on transmette quelque chose. Peut-être c'est transmettre l'évangile à un. Peut-être c'est transmettre de l'amour à l'autre, mais sachez que lorsque vous transmettez à un, vous êtes déjà en train d'influencer une multitude. Père, je te remercie, parce que ta parole nous donne des réponses, n'est-ce pas? Ta parole est claire, ta parole est vivante, Elle sépare celui qui est esprit et âme. C'est cette épée à double tranchant qui fait la différence entre la vérité et le mensonge. Et Père, je te demande pour chaque personne ici présente, Père, donne-nous cette ou ces personnes à qui nous pouvons transmettre quelque chose de valable. Et Père, nous voulons arrêter de marcher par la vue, nous voulons arrêter de marcher par la quantité, nous voulons marcher par la qualité. La Bible dit, ne marchez pas par la vue, marchez par la foi. Ayez foi en ce que vous allez transmettre à cette personne. Hallelujah. Père, nous prions que cette semence porte du fruit dans le nom de Jésus. Amen.